Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel et les violences au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore dans un rapport trimestriel sur le Mali les retards politiques dans l'application de l'accord de paix de 2015 et l'insécurité croissante dans le pays où les groupes terroristes gagnent du terrain. Selon le rapport du patron des Nations Unies, les pertes dans l'armée malienne entre octobre et décembre ont augmenté de 116% comparé aux trois mois précédents, avec un total de 193 morts. Dans le même temps, 68 attaques contre la MINUSMA, la mission onusienne sur place, ont été dénombrées, contre 20 au cours de la période précédente. Au Soudan, retour au calme au Darfour dans l'ouest du pays après deux jours d'affrontements intercommunautaires qui ont fait quelques 50 morts et 241 blessés. C'est ce qu'a indiqué jeudi le Croissant Rouge local, le point avec Abdourahmane Dia.
Des heurts ont eu lieu dimanche et lundi à El Ganeina, capitale de l'état du Darfour Ouest, entre des membres armés de tribus arabes et africaines qui ont incendié plusieurs maisons. 19 des blessés sont dans un état critique et ont été transférés à Khartoum. Des habitants contactés par téléphone ont confirmé que les combats avaient cessé. Ils ont indiqué que des forces de sécurité patrouillaient les routes principales de la ville. Le gouvernement a imposé un couvre-feu depuis lundi. Une délégation officielle s'est rendue sur place. Selon les médias soudanais, les heurts ont éclaté après une dispute entre deux personnes. Une femme contactée par l'AFP a indiqué avoir fui un camp de déplacés de la minorité ethnique non-arabe Masalit près d'El Ganeina après que des assaillants ont mis le feu à des tentes. Le Darfour est déchiré par les violences depuis que des rebelles issus de minorités ethniques ont pris en 2003 les armes contre le pouvoir central d'Omar el-Béchir, l'accusant de marginaliser leur région.
En Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a nommé jeudi soir, deux semaines exactement après avoir pris ses fonctions, son premier gouvernement, composé de 39 membres. Le porte-parole de la présidence en a donné la composition à la télévision nationale, Bagassi Koura.
C'est la première fois que le gouvernement algérien est annoncé en direct de la présidence et par un de ses responsables à la télévision et non via un communiqué officiel. Parmi ses 39 membres, le gouvernement compte 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Il compte également 5 femmes, selon l'agence de presse officielle APS. Principale originalité, il ne compte pas de vice-ministre de la Défense, poste qu'occupait depuis 2013 et jusqu'à son décès le 23 décembre, le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le président de la République est traditionnellement ministre de la Défense en titre en Algérie. 4 des 5 principaux ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dirigé par Noureddine Bédoui, nommé le 31 mars par le président Abdelaziz Bouteflika, deux jours avant sa démission sous la pression des mouvements de contestation inédits. Le 28 décembre, le président Tebboune avait nommé premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence, puis du ministère des Affaires étrangères. Il avait chargé de constituer un gouvernement.
Politique en Tunisie, le premier ministre tunisien Habib Jemli, désigné par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, a finalement présenté jeudi son gouvernement, composé de personnalités indépendantes, après un mois et demi de tractations difficiles et l'échec des négociations avec les partis politiques. Après l'échec de ces discussions, M. Jemli avait annoncé le 23 décembre sa décision de former un gouvernement de personnalités indépendantes en raison des tiraillements entre partis dont certains ont opposé selon lui des conditions énormes pour participer au gouvernement. Le bureau du Parlement tunisien se réunira demain samedi pour fixer la date de la séance plénière destinée au vote de confiance selon un communiqué.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine, le président des États-Unis Donald Trump a mis en garde jeudi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan contre toute interférence étrangère en Libye, au moment où le Parlement turc à Ankara a autorisé le chef de l'État à déployer l'armée dans ce pays en pleine guerre civile. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
C'était à l'occasion d'une conversation téléphonique qui a permis aux deux dirigeants d'évoquer des questions bilatérales et régionales. Le président Trump a souligné à son homologue turc que l'interférence étrangère compliquait la situation en Libye, a indiqué la Maison-Blanche dans un bref compte-rendu de l'appel. Après le feu vert des députés turcs, il appartient à Recep Tayyip Erdogan de décider s'il va envoyer des troupes ou si le soutien militaire prendra une autre forme. La Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar, qui appuient le gouvernement d'Union nationale GNA, reconnu par la communauté internationale, et de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar, qui s'efforce de prendre Tripoli. Washington a appelé ce dernier à mettre fin à son offensive, même si Donald Trump avait donné l'impression de le soutenir par le passé. Les États-Unis accusent par ailleurs la Russie de chercher à exploiter le conflit contre la volonté du peuple libyen, ce que dément Moscou.
Violence en Irak maintenant, les États-Unis ont tué le général Qassem Soleimani, commandant d'une unité d'élite des forces iraniennes et fer de lance de l'influence militaire grandissante de Téhéran au Moyen-Orient. Et ce, dans une frappe avec un drone mené ce vendredi à l'aéroport de la capitale irakienne Bagdad. C'est ce qu'ont annoncé le Pentagone et l'Iran. Il s'agit d'un revers important pour Téhéran dans un climat de tension avec les États-Unis, qui se sont accentués depuis une semaine. Idrissa Seloudia revient sur les circonstances de la mort de ce chef de l'élite de l'armée iranienne.
Le général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, a été tué dans une attaque américaine au missile tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad en Irak. Et dans un communiqué publié peu après cette frappe, le Pentagone a confirmé la nouvelle, ajoutant que le président Donald Trump a ordonné cette attaque pour dissuader les futurs plans d'attaque iraniens et que les États-Unis continueront de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur peuple et intérêts où qu'ils se trouvent dans le monde. À Bagdad même, les officiels irakiens ont annoncé aussi la mort d'Abu Merdi al-Muhandis dans les mêmes frappes américaines. Il s'agit du numéro 2 du Hashd al-Sha'bi, une coalition de militaires majoritairement pro-iraniens, désormais intégrée à l'État irakien. Elle était derrière l'attaque de mardi contre l'ambassade américaine à Bagdad. Les mêmes officiels disent ne pas savoir le nombre exact de victimes, mais pensent qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans les raids américains.
Mais qui était Qassem Soleimani? L'un des personnages les plus populaires en Iran est un adversaire redouté des États-Unis et de ses alliés. Jean-Roger Bion vous brosse son portrait.
Cet homme de 62 ans à la barbe poivre et sel était aussi devenu ces dernières années une véritable star en Iran avec de très nombreux followers sur son compte Instagram. À l'étranger, certains dirigeants occidentaux le voient comme un personnage central dans les relations de Téhéran avec des groupes comme le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, responsable d'avoir exporté la révolution islamique de l'Iran, de soutenir les terroristes et de mener les guerres de l'Iran à l'étranger, d'après l'ancien analyste de la CIA Kenneth Polak. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, Soleimani, qui a joué un rôle important dans le combat contre les forces djihadistes, est l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, où il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, deux pays où les États-Unis sont engagés militairement. Son influence était ancienne puisqu'il dirigeait déjà la force Quds lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001. L'homme a déployé notamment ses talents dans l'Irak voisin. À chaque développement politique ou militaire dans ce pays, il a fait le déplacement pour agir en coulisses et surtout en amont. Ces hauts responsables des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, avaient également raconté avoir passé au Liban avec le Hezbollah chiite libanais l'essentiel du conflit israélo-libanais de l'été 2006 dans un entretien exclusif diffusé par la télévision d'État iranienne en octobre dernier. Selon une étude publiée en 2018 par Iran Paul et l'Université du Maryland, 83% des Iraniens interrogés avaient une opinion favorable de Soleimani, classé devant le président Hassan Rouhani et le chef de la diplomatie Mohamed Javad Zarif.
Réaction dans le monde à la suite de l'attaque près de l'aéroport de Bagdad. La Chine a fait part aujourd'hui de sa préoccupation et a appelé au calme après le raid en Irak. La France aussi a appelé dès ce vendredi pour la stabilité au Moyen-Orient, estimant, et je cite, que l'escalade militaire est toujours dangereuse. Pour sa part, le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdelmahdi a dit que l'action américaine allait déclencher une guerre dévastatrice en Irak. Et le guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei a menacé de venger la mort de Soleimani. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.